franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. C'est dans un an, quasiment jour pour jour, que le Français Thomas Pesquet s'envalera dans l'espace. Le 15 novembre 2016, il prendra le départ pour une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Et ce matin, dans Le Parisien, il raconte comment il peaufine sa préparation. Des vols paraboliques qui reproduisent quelques secondes la sensation d'apesanteur, des stages de survie sur les glaciers de Sibérie. Et là, dit-il, je viens de passer 10 jours sous l'eau pour une exploration au large de la Floride. Rien que l'entraînement, c'est fantastique, confie celui qui sera le 10e spationaute tricolore envoyé sur orbite. Et j'ai hâte, ajoute-t-il, hâte de pouvoir assister à 16 levées et couchers de soleil par jour. Et Mars, vous y pensez ? Lui demande le journal. Oui, bien sûr, répond-il. J'adorerais y aller, mais il serait illusoire de se dire qu'on tient là une planète de rechange, et avant que l'on en trouve une, mieux vaut s'occuper de celle que l'on a. Et de fait, elle ne va pas bien, notre planète, comme en témoignent les journaux ce dimanche, lesquels reviennent notamment sur le crash en Égypte la semaine dernière. Désormais, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, et même finalement la Russie, estiment que l'hypothèse la plus vraisemblable est celle de l'attentat, une bombe dans l'avion. Mais hier, les autorités égyptiennes ont fait savoir qu'elles ne privilégiaient pour l'instant aucun scénario.
L'Égypte doute de l'attentat, c'est ainsi que titre Sud-Ouest.
L'Égypte refuse de parler d'attentat, titre de son côté Ouest-France. L'Égypte résiste à l'attentat, constate l'Indépendant. Mais alors donc, pourquoi ce doute? Pourquoi donc ce refus? Pourquoi cette résistance? Tout cela n'est pas surprenant, répond Bruno Tertrais dans les colonnes du Parisien. Il est expert en relations internationales. Et explique que si l'hypothèse de l'attentat était en effet confirmée, ce serait très ennuyeux. Ennuyeux, c'est son terme. Ennuyeux pour le président égyptien. Tout d'abord parce que cela illustrerait l'incapacité du régime à lutter contre la menace djihadiste. En outre, cela affecterait l'industrie du tourisme déjà en difficulté. 4 millions d'emplois directs et indirects seraient mis en danger. Comme le serait donc aussi la crédibilité du président Sissi. Dès lors, l'Égypte est aujourd'hui et de toute évidence dans une attitude de déni. Déni d'une réalité trop compliquée à assumer. Et puis en marge de l'émotion provoquée par la catastrophe dans la population russe, Le Monde se fait l'écho de l'indignation du Kremlin après 2 dessins publiés suite au crash du charter dans le dernier Charlie Hebdo. Le premier représente un djihadiste recevant une pluie de débris d'avion sur la tête sous ce titre « Daesh ». L'aviation russe intensifie ses bombardements. Le second dessin fait parler le crâne d'un mort à côté des restes de l'appareil « J'aurais dû prendre air cocaïne ». Des caricatures diffusées vendredi à Moscou, suscitant une vive polémique. Polémique entretenue par les autorités. Le porte-parole de la présidence russe a déclaré qu'il s'agissait là tout bonnement de blasphème, tandis que son homologue du ministère des Affaires étrangères demandait sur Twitter qui pouvait bien encore soutenir le journal satirique. Je ne suis pas Charlie, a même cru bon de lancer l'agence d'info Spoutnik, média dépendant du pouvoir russe. Sommet de réagir, Paris a répondu par un message du Quai d'Orsay relayé par l'ambassade de France à Moscou. Les journalistes français sont libres, mais n'engagent pas les autorités françaises.
Oui, le journal fait d'ailleurs sa une sur les suites de l'enquête sur les attentats de janvier.
La tuerie à Charlie Hebdo et la prise d'otage de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, 17 morts en 3 jours. Les enquêteurs ont découvert des mails qui montrent que ces attentats étaient coordonnés. Et qu'Amédi Coulibaly attendait des renforts, lesquels ne sont finalement pas arrivés, mais sans doute une action plus meurtrière encore était envisagée. Ce qui apparaît aussi, suite à l'analyse des échanges de Coulibaly, c'est que c'est bien lui qui aurait fourni les armes au frère Kouachi. Mais ces mails ont surtout mis au jour l'existence d'un commanditaire, un donneur d'ordre, qui aurait piloté à distance les opérations en l'état, nous explique Élise Vincent qui signe ce papier du Monde. La justice n'a pas encore réussi à établir l'identité comme la localisation de ce commanditaire. Cependant, parmi les protagonistes du dossier, un homme suscite un intérêt particulier, Peter Sheriff, un djihadiste français de 33 ans dont le nom revient avec insistance dans l'épluchage des répertoires téléphoniques et les diverses auditions de l'entourage des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly.
Dans la presse, il est également question de politique. Ainsi, le journal du dimanche offre à sa une deux photos, celle de François Hollande et celle de son prédécesseur Nicolas Sarkozy.
Et pour l'hebdomadaire, les deux hommes jouent le coup d'après. Autrement dit, ils n'ont en tête que la présidentielle, laquelle se déroulera au moment où Thomas Pesquet rentrera de son expédition dans l'espace. Hollande et Sarkozy, entre les deux, la tension monte. Nous explique le journal en précisant toutefois que pour l'heure, leurs stratégies ne sont pas vraiment les mêmes. L'actuel chef de l'État espère avant tout redorer son blason à l'occasion de la COP21, sommet qui pourrait lui donner ponctuellement le statut de président planétaire, même de Mars peut-être, on verra que c'est un président planétaire. Cependant, analyse le politologue Olivier Duhamel, un succès international n'a jamais fait gagner une élection présidentielle. Quant à Nicolas Sarkozy, lui, il mise avant tout sur les bons scores de son parti lors du scrutin des régionales. Il va donc enchaîner les meetings et il va continuer à donner de sa personne comme il a fait hier devant le Conseil national des Républicains réuni à la Mutualité. Un conseil qu'ont toutefois boudé ses adversaires à la primaire. Juppé, ni Fillon, ni Le Maire. Sarkozy sans Juppé, ni Fillon, commente la Provence. Sarkozy fait l'unité tout seul, résume le courrier Picard, tandis que Le Monde nous raconte la sidération exprimée par plusieurs candidats de droite comme de gauche, inaudible et désarmée face à des électeurs de plus en plus tentés par le vote Front National. Défiance vis-à-vis des élites et des partis de gouvernement, sentiment d'abandon dans les communes rurales, un chômage qui ne baisse pas. Sans oublier l'effet des images des réfugiés arrivant par centaines de milliers en Europe, la colère est terrible, la désespérance est folle, note ainsi Philippe Vigier, candidat de la droite en centre Val-de-Loire. Désormais, on ne contrôle plus rien dans la montée de la xénophobie en France, abonde la députée socialiste Karine Berger, tandis que l'UDI Maurice Leroy appréhende un scrutin qui va servir aux électeurs pour dire merde au système. C'est aussi ce que craint Thierry Solaire, député Les Républicains, qui constate que le Front National profite dorénavant de toutes les exaspérations. Plus de complexe, plus de tabou. Maintenant, dit-il, c'est « je me fais flasher sur l'autoroute, je vote pour l'UFN. Mon entreprise va mal, je vote pour l'UFN. Je crois que ma femme me trompe. Je vote pour le FN. »
Ça va faire du monde.
La preuve de la poussée du Front National, on la trouve notamment dans le sondage Odoxa, publié dans les colonnes du Parisien, dans la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. C'est la liste menée par Florian Philippot qui pointerait en tête le soir du premier tour. Cependant, au second, elle serait devancée de 2 points par celle de Philippe Richer, la liste d'union de la droite et du centre. Quant à celle conduite par Jean-Pierre Masseret, liste socialiste PRG, elle arriverait loin derrière dans les deux cas.
Et puis à propos des réfugiés, le JDD détaille ce matin le plan secret de Bernard Cazeneuve pour la jungle de Calais.
Selon les informations du journal, le ministre de l'Intérieur aurait entrepris de vider ce qu'on appelle donc la jungle de Calais. Pour preuve, la baisse spectaculaire du nombre de personnes recensées dans le camp. Le mois dernier, on en comptait environ 6000 et aujourd'hui, on en dénombre plus que 4500. À un mois des élections régionales, Bernard Cazeneuve aurait discrètement mis en place un plan de bataille consistant notamment à transférer ces réfugiés dans des centres de rétention situés ailleurs dans l'Hexagone. Les associations lui reprochent de vouloir les planquer pour gagner du temps. Et pour tronquer les chiffres, on ne peut pas annoncer qu'on va accueillir 30 000 Syriens et mettre ceux qui sont là en rétention, disent-elles. Elles dénoncent Ubu et Kafka réunis dans cette situation. Faut-il légaliser l'euthanasie en France ? Faut-il une nouvelle loi ou laisser les choses en l'état ? Des questions posées cette semaine par l'hebdomadaire Le 1 qui nous offre à lire les points de vue contradictoires d'hommes et de femmes qui ont été confrontés au sujet. Passionnant numéro, voyage au bout de la vie. Il y a ceux qui refusent une évolution de la loi, ceux pour qui donc l'euthanasie, c'est simplement donner la mort. Touche pas à ma vie, lance ainsi Philippe Pozzo di Borgo, ancien chef d'entreprise devenu tétraplégique et dont l'histoire a inspiré le film Intouchable. À l'inverse, il y a ceux qui plaident pour un droit à mourir, à l'instar de Noël Châtelet qui revient sur la mort programmée de sa mère, laquelle était sage-femme et avait confié à sa fille juste avant de partir. Mon combat de sage-femme, c'était celui pour l'IVG. Ton combat, ce sera celui pour l'IVV, comprendre l'interruption volontaire de vie. Et ce n'est pas un suicide, estime l'écrivain, c'est un départ choisi qui fait que le mourir est un dernier acte de vie. Enfin, dans Le Parisien, vous lirez cette drôle d'histoire. Ça se passe à Vichy. La Poste reçoit depuis quelques semaines des courriers. Dans les courriers, il y a de l'argent. Et sur l'enveloppe, il est noté
Dieu. Les courriers sont adressés à Dieu. La Poste, pour l'instant, ne sait pas vraiment à qui les envoyer.
Ainsi parlait Frédéric Pommier.
4 000 euros dans les enveloppes tout de même.